Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, dans ce podcast de So Sweet Planet, ravie de retrouver Emel.
Et moi de même.
Donc ravie de te retrouver puisque tu es la première invitée de So Sweet Planet à revenir pour un second podcast.
Ah, puisque quel honneur.
Cette première rencontre, c'était en octobre 2019. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la suite, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis un an. Vraiment,
ah oui.
On ne pensait pas qu'il s'en passerait autant. Et tu nous reviens avec un superbe double album de 18 titres, 9 titres jour et 9 titres nuit. Tu vas nous expliquer tout ça. Un album très épuré, très recentré sur ta voix, avec des reprises de Jeff Buckley, de David Bowie, Nirvana, des Cranberries, entre autres. Et des réenregistrements de titres originaux que tu as écrits et composés. Et franchement, ça m'a beaucoup émue. Et j'ai vu que je n'étais pas toute seule, puisqu'on va en reparler, mais l'un des titres qui est sur cet album et que tu as posté sur le net pendant le confinement a eu une flambée d'écoute avec plus d'un million de vues. Peut-être on est autour de 2 millions, je crois, maintenant.
Oui.
Donc cette voix, elle touche tout le monde. Donc je vais te demander déjà pourquoi le jour et la nuit. C'est 18 titres, c'est 9 jours, c'est 9 nuits. Comment est né cet album et de quoi s'agit-il ?
Donc cet album est né un peu tardivement, je trouve, dans mon confinement. J'étais de passage à Tunis pour fêter l'anniversaire de mon père. Et au bout de 2 semaines, on a été confinés. Donc le bon côté des choses, c'est que j'étais confinée dans ma maison d'enfance, dans laquelle je n'ai pas eu la possibilité de passer, je pense, plus de 5 jours d'affilée depuis une dizaine d'années. Et d'un coup, ce sentiment en fait, de poser ses bagages et de vraiment prendre un grand souffle et de se dire que finalement c'est pas plus mal de ne pas savoir la date de départ, de ne pas avoir cette horloge qui qui fait TikTok. Et j'étais avec ma fille 5 ans et mon père 85 ans, donc j'étais quand même très bien entourée, mais très 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 occupée entre essayer de divertir la petite, d'essayer de... Mais en fait, tout était assez intense parce que mon père, qui était professeur d'histoire et qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, je le dis vraiment en toute objectivité, donc on se retrouvait pour les repas, on faisait la cuisine ensemble. Enfin, moi, je préparais les repas et lui épluchait les légumes. Mais on avait des conversations sur l'histoire, sur les civilisations. Et c'était vraiment une grande chance de faire ça, parce qu'à distance, de se téléphoner, c'est pas pareil. Et puis, j'ai commencé quand même à m'inquiéter, à me dire qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose. Moi, je m'inquiète très vite. Il faut toujours que je sois créative, que je prouve que mon existence n'est pas vaine. Je suis quelqu'un d'assez stressé là-dessus. Et du coup, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je fasse un grand nettoyage de la maison. Et arrivé en haut, donc on a une chambre qui donne sur une terrasse et qui donne sur tout Tunis. Et j'étais vraiment abasourdie par cette beauté, parce qu'on voit le blanc des maisons avec le vert des pins, le rose et le rouge des bougainvilliers, et ça se déroule jusqu'à la mer, et les montagnes, la montagne Boukhornine à droite. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire avec ça. Donc au début, ça a commencé par les lives Facebook et Instagram. Donc très vite, il y a eu cet engouement, il y a eu plein de pages qui commençaient à contacter des artistes. Donc moi, je l'ai fait de ma propre initiative sur mes propres réseaux, chose que je n'aimais pas forcément faire avant. Et là, je me retrouve à vraiment rechercher cette bouffée d'air et cette inspiration de mon auditoire. Et vice-versa, on s'est un peu consolé. Et j'ai commencé à enregistrer ces lives-là tout simplement parce que des fois, je n'avais que quelques minutes pour choisir ma setlist, pour préparer et pour décider de faire des chansons. Et en plus, j'essayais de faire des chansons qui me faisaient plaisir. Ça pouvait être des chansons à moi que je savais les gens aimaient bien, que je pouvais faire en acoustique parce que aussi,
les moyens étaient limités.
C'est vrai que jusque-là, je n'avais pas forcément joué toute seule. Donc par chance... J'ai réussi à emprunter une guitare classique à un fan, une guitare que je pouvais garder autant que je voulais, sauf que moi, je n'avais pas joué de guitare classique depuis mes 18 ans. Et j'avais un enregistreur comme toi, un Zoom plutôt, et j'ai découvert qu'en fait, avec un câble, je pouvais le connecter à mon ordinateur et ça faisait comme une carte son. Donc ça, c'était la révélation. Et à partir de là, je me suis dit, il faut absolument que je commence à enregistrer parce que finalement... J'ai fait des albums qui étaient bien produits, avec plein d'arrangements, avec des ambiances électroniques. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais enregistrée en mode acoustique.
Oui, c'est très dépouillé, là.
Et finalement, c'était aussi un retour aux sources, parce que je me suis rappelée de ce que ça voulait vraiment dire pour moi de chanter. Parce que là, on se retrouve, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'artifice. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que la musique peut aussi m'émouvoir et émouvoir les autres dans ce format assez dépouillé? Et c'était très, très bénéfique pour moi de me rappeler pourquoi je veux chanter, pourquoi j'aime chanter. Parce que moi, mes débuts, j'aimais chanter quand la maison était vide, tout en haut des escaliers, en recherchant cette réverbe naturelle. Et donc là, j'ai retrouvé un peu tout ça. Et je me suis mis, parce qu'il fallait quand même que je me mette un objectif, parce que sinon c'est très vite de se laisser aller, puisqu'on est en pyjama, la cuisine c'est vraiment là où on passe le plus de temps.
Et puis on était tous dans un état mental vraiment particulier, quoi.
Voilà, donc je me suis dit, tu enregistres une chanson par jour, une chanson ou deux. Et donc j'ai réussi à enregistrer deux chansons par jour, donc ce qui fait 9 jours. Sauf que moi, à l'époque, donc ça c'était en avril 2020, je ne pensais pas du tout sortir ça en album ou exploiter ça de quelque manière qu'il soit. Et de toute façon, je pensais que de retour à New York chez moi, j'allais peut-être refaire les enregistrements.
Oui.
Et donc moi, je pensais qu'éventuellement, je réenregistrerais le tout parce que... Je ne me suis jamais enregistrée moi-même professionnellement, c'est-à-dire je fais mes démos, j'enregistre des idées, mais jamais je m'enregistre
mais
vraiment.
Mais oui, c'est un métier aussi, généralement.
Il y a toute une équipe pour faire tout ça. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, parce que moi, je veux garder les idées le plus possible. Et le fait d'être entre l'ordinateur et les logiciels, moi, ça me déconcentre. Donc du coup, là, j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que donc, mon enregistreur, il prenait ma voix et ma guitare en même temps, ce qui m'évitait de faire des prises de guitare et puis après de repasser la voix, ce qui diluait un peu l'émotion. Donc là, j'ai fait le parti pris de me lancer. Allez, hop, et il n'y a pas du tout possibilité de faire du bistouri, de faire des re-re. C'est guitare-voix, c'est ensemble. Et
c'est des conditions à l'ancienne, en fait.
Voilà, il faut faire avec, exactement.
Oui, mais ça a ramené, je trouve, aussi ça a redonné envie d'apprécier les choses de cette façon-là aussi, d'une façon un peu brute, un peu directe, un peu moins produite, peut-être, plus... on va à l'essentiel, quoi.
Au début, quand j'ai commencé à faire des lives, pour moi, c'était vraiment histoire d'être là pour les gens. Mais très vite, en fait, j'ai réalisé que c'était très important pour les gens. Encore aujourd'hui, je reçois des messages de gens qui me disent que leur confinement avait été... mes performances pendant le confinement les avaient beaucoup aidés. Et j'ai remarqué à quel point les gens avaient aimé, notamment j'ai commencé à essayer quelques chansons, dont celle, donc, et je l'ai postée donc, sur YouTube au moment du confinement, alors qu'elle n'était même pas encore mixée ou quoi. Donc le son qu'il y a sur YouTube, c'est vraiment le son qui sort de mon ordinateur. Et j'ai été, quand j'ai vu les vues exploser, je me suis dit, il y a quelque chose... finalement, il faut suivre son cœur et le cœur des gens.
Oui, c'était vraiment étonnant, parce que moi, je me souviens très bien, puisque je te suis sur les réseaux sociaux, et je me souviens très bien du moment où tu as posté ça, je me souviens du moment où je l'ai écouté et où ça m'a beaucoup émue, la voix m'a beaucoup touchée. Et en fait, après, quand j'ai vu le nombre de vues qui flambait en quelques jours, c'était assez émouvant de voir que, voilà, il y a quelque chose d'universel. Et là, on était hors tout ce qu'on a pu apporter depuis dans la musique à ce qui est la chose d'origine, quoi, la voix. Et là, de voir que juste une voix, toi, là, de telle simplicité, un tel dépouillement, dénuement, juste à l'essentiel, et que d'un seul coup, dans le monde entier, il y avait autant de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, jusqu'aux millions de vues. C'est étonnant, ça devait être émouvant pour toi de voir arriver tout cet engouement tellement rapide.
Oui, j'étais complètement... je me suis dit, ah tiens, parce que bon, moi, je suis dans mon petit cocon, je n'ai pas forcément l'habitude des trucs deviennent viraux. et en fait,
c'est exceptionnel aussi quand même. Hein.
Oui, pour la première fois, j'ai regardé les commentaires.
Oui.
Et c'est là où vraiment ça donnait les larmes aux yeux. D'ailleurs, il y en a un qui est tout au-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce commentaire. C'est un papa qui pleure à l'écoute de la chanson et sa fille lui demande « Papa, pourquoi tu pleures ?» Et il lui explique qu'il a vu quelque chose d'une telle beauté que...
Et intensité, oui.
Et je ne sais même pas de quel pays. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toute la cruauté qu'on voit, toute la politique là, qui est dégoûtante, c'est bien de voir que finalement, on a raison de croire en quelque chose, on a raison de croire en l'être humain, en la beauté humaine.
Et en la capacité de l'être humain de percevoir la beauté aussi.
Oui, finalement, on est d'accord.
Malgré tout ce qu'on vit de difficile, voilà, de tout ça...
Quelque chose qui... Parce que moi, pour moi, la musique, ça a toujours été... je fais quelque chose dans mon petit coin, dans mon salon, dans ma chambre. Et il faut que ça me touche vraiment. Et c'est ce qui me donne la confiance, et la confiance plutôt, l'assurance de présenter ça au monde. Parce que j'ai cette assurance que du moment que ça m'a touchée, ça va forcément toucher les autres.
Oui.
C'est pas une histoire de c'est pas par rapport à moi-même et ma vision des choses, mais c'est juste, je considère que l'émotion humaine, on se rejoint tous, on se met tous d'accord autour de ça.
Alors donne-nous le titre de cette chanson pour que nos auditrices et auditeurs puissent aller la chercher sur YouTube, l'écouter s'ils ne la connaissent pas déjà.
La chanson s'appelle Holm, H-O-L-M, et ça veut dire rêve, un rêve.
Alors il y a aussi des reprises donc, en anglais, donc on l'a dit, hein, de Jeff Buckley, David Bowie, Nirvana, il y a Leonard Cohen aussi. Comment est-ce que tu as choisi ces reprises, est-ce que c'était des chansons qui faisaient déjà partie de ta vie parce que tu les écoutais ou que je crois pour certaines tu les avais déjà reprises, notamment celle de David Bowie. Comment tu as choisi les titres de cette partie-là?
Alors c'est venu naturellement, petit à petit. Je pense que déjà dans les lives que je faisais, comme j'essayais vraiment de trouver quelque chose qui me faisait plaisir, que j'étais pas en train de rechercher à forcément exploiter mon répertoire, mais vraiment à chanter et retrouver l'amour du chant et de la musique. Et donc, de temps en temps, j'introduisais des reprises, notamment New Year's Prayer, qui est une chanson de Jeff Buckley, que j'ai repris depuis tellement d'années, qui est vraiment devenue partie intégrante de mon répertoire et même de mon répertoire récent. Et c'est elle qui m'a inspirée justement de vouloir faire un album en anglais. Et j'en ai fait une version très, très électronique et très énigmatique. Et là... je l'ai reprise en format acoustique comme, à mes tout débuts. C'est vraiment une chanson qui m'a accompagnée. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait, de retrouver un peu toutes ces chansons qui m'ont donné envie de chanter, qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et j'ai commencé à essayer de me rappeler, et j'ai toutes les chansons qui existent sur la partie donc nuit. C'est des chansons qui ont compté énormément pour moi. Chacune, par exemple celle de Nirvana, Something in the Way. Alors je ne sais pas forcément de quoi il veut vraiment parler, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait un pont dans Aberdeen, la ville où un peu pourri où il a grandi. Parce que underneath the bridge, donc il y a un pont et c'est peut-être là éventuellement. Je ne sais pas si c'est vrai. Et moi, ça me rappelle un peu l'endroit où on se réunissait quand j'avais 18 ans. C'est comme un petit amphithéâtre, mais vraiment bien pourri, où les uns buvaient, les autres se retrouvaient en couple, les autres discutaient. Mm-hmm. Et puis moi, je me mettais au centre et je chantais parce qu'il y avait comme une certaine réverbe. Et bah, il y avait ce mélange de désenchantement et de vraiment, parce qu'on n'avait rien, on n'avait personne qui pour nous tenir la main, pour utiliser toute cette créativité, toute cette énergie. Quand on a 18 ans, on a tellement de et pour moi, cette partie-là est un peu triste, c'est un peu dramatique, parce que c'est un peu nos meilleures années. Mais malgré ça, moi, je développais ce rêve de devenir chanteuse et tout. Donc, Something in a Way, ça me ramène un peu aussi à mes premières années. Je suis un peu paumée. Et donc, c'est très important pour moi.
Donc, ça, c'était à Tunis ?
Ouais, ça, c'était à Tunis. Et après, The Cranberries, War Child, c'est une chanson, donc, l'enfant de la guerre. Et bah, la guerre, elle existe toujours. Et c'est une chanson c'est d'une beauté, je trouve, qui n'est pas aussi exploitée pour moi à chaque fois qu'il y a, comme le petit Thaïlande qu'on avait découvert avec horreur sur une plage. Pour moi, c'est ça, War Child. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de emmener le flambeau de cette chanson pour continuer à parler de cette enfance-là. Et puis, c'est, musicalement, c'est une chanson très, 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 très belle. Et c'est une façon pour moi de rendre hommage à ce groupe qui m'a beaucoup inspirée, The Cranberries, et cette chanteuse qui est partie trop tôt.
Oui.
Et voilà, quoi, c'est un peu...
Et David Bowie.
Donc David Bowie, The Man Who Sold the World, évidemment, comme beaucoup de gens de ma génération, moi je l'ai découverte par Nirvana, sur l'Unplugged, qui a changé la vie à plein de gens. Et puis, bien sûr, un jour, j'ai découvert la version de David Bowie. Je trouvais qu'elle était encore plus profonde et plus dramatique que celle de Nirvana. Et j'en ai fait un jour une version. Parce que pour moi, c'est vraiment un peu inutile de chanter la chanson de quelqu'un d'autre si on ne va pas vraiment y insuffler nos propres émotions, notre propre ressenti. Et je trouve que... J'ai trouvé que j'avais réussi quelque chose et j'avais envie de la réenregistrer proprement.
Oui, et c'est une très très belle version.
Merci.
Pourquoi nuit pour la deuxième partie ? Comment c'est venu ce jour-nuit ?
Donc en fait, je montais à la chambre du haut en espérant ne pas être dérangée, ce qui n'a pas été chose facile. Et du coup, je consacrais 2 heures environ dans l'après-midi après avoir... rempli toutes mes fonctions du matin, sauf que j'essayais aussi d'aller la nuit, parce qu'en fait la nuit il y avait un autre spectacle, c'est que on voit tout le ciel, et alors quand il y a un peu de nuages, plus on voit toutes les lumières de la ville, et en fait le paysage jour avec la mer, les montagnes. Et le paysage nuit était vraiment... J'ai trouvé que c'était 2 paysages complémentaires. Et puis aussi, l'environnement sonore du jour, c'est les oiseaux. Vraiment une grande multitude d'oiseaux. C'est le berger sur la colline derrière qui chante quand il ramène ses moutons pour manger. Et il y a aussi l'appel à la prière. Il y a le Coran, parce qu'on a une mosquée aussi sur la colline. Et en fait, c'est un peu comme la colline Hollywood. C'est un peu comme un cercle de collines. Et du coup, il y a beaucoup de réverbes naturelles. Et la nuit, en fait, il y a les cigales et les crapauds des collines voisinantes. Et avec la réverbe, ça, je trouvais que ça avait créé un environnement sonore extraordinaire. Et donc, j'ai décidé que chaque jour, il fallait que j'enregistre une le jour, une la nuit. Et j'ai un peu joué, de temps en temps, j'ouvrais la fenêtre. Et aussi, quand je réenregistrais quelques voix par-dessus, ça faisait du coup plusieurs couches de ce même environnement sonore.
C'était plus dense qu'au niveau des.
Voilà,
des
donc je voulais absolument qu'il y ait les deux images avec tout ce qu'elles peuvent véhiculer et les deux environnements.
Et donc les titres du premier album, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les as choisis et au niveau des contenus, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'était des chansons qui te tenaient à cœur juste musicalement ou est-ce qu'il y a quelque chose en termes de contenu aussi qui fait que tu les as choisies?
Alors, bien sûr, j'avais une sélection deux fois plus longue au début. Et je pense que je voulais choisir trois de chaque parce que j'ai trois albums. Donc le premier, c'est « Kelmti Ora ». Qui est sorti en 2012. Le deuxième, c'est Ensign, qui est sorti en 2017. Et le troisième, c'est Everywhere We Looked Was Burning.
Celui
donc, je voulais rendre hommage un peu à,
oui.
aux trois albums et choisir trois de chaque. J'ai essayé de choisir celles qui ont le plus parlé au public toutes ces dernières années. Mais en même temps, pas forcément celles qui ont été les plus écoutées, parce que ce n'est pas celles que jouer acoustique. Ce n'est pas forcément celles qui vont ressortir le plus.
Ah oui.
Parce que de toute façon, d'album en album, sur mon premier album, Kelmti Ora, toutes les chansons existaient déjà en acoustique, que j'ai beaucoup joué toute seule, que ce soit chez moi ou à mes tout premiers concerts à Paris. Et après, elles ont évolué, elles ont été produites. Alors que les deux autres albums, les chansons ont vraiment existé sous la forme qu'il y a sur l'album. Donc, elles n'ont pas été vraiment écrites pour être jouées en acoustique.
D'accord.
Et donc, lors des lives, je trouvais qu'il y en a quelques-unes qui étaient vraiment très intéressantes sous ce format-là. Donc, j'ai choisi par exemple Malkit, c'est une chanson qui existe sur Kelmti Ora, qui veut dire. C'est un peu une chanson où je décris un peu le fait de se sentir perdu en tant qu'artiste, en tant que songwriter. Et parfois, on a besoin d'admettre ça et de peut-être admettre que parfois, les mélodies, elles ne sont pas assez fortes pour briser la haine de l'être humain. Après, du dernier album, j'ai choisi « Everywhere We Looked Was Burning ». Pour moi, c'est...
Qui était le titre de l'album, donc.
Voilà, qui est aussi le titre de l'album. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Vraiment, là, c'est une chanson qui a été écrite d'une manière assez traditionnelle. Et d'ailleurs, sur l'album, elle a fini en juste cordes et voix et piano. Et je ne l'avais jamais vraiment joué à la guitare que jusqu'au confinement. Et j'ai trouvé qu'elle faisait un peu mélodie médiévale. Et j'avais vraiment besoin de l'avoir sur l'album. Après, de l'album Ensign, j'ai choisi pas forcément les chansons les plus connues. J'ai choisi Princesse Mélancolie, qui est une chanson très personnelle pour moi. C'est vrai qu'il y a eu des années où je me considérais un peu très mélancolique, donc c'est un peu et c'est aussi une chanson qui parle des gens qui se sentent pas forcément représentés, des gens qui sont très sensibles, très fragiles et qui se perdent un peu dans la société. Voilà, je crois que c'est une de mes chansons les plus personnelles. Et moi, je ne me considère pas vraiment comme une guitariste à proprement parler ou brillante parce que, tout simplement, je n'ai jamais vraiment travaillé dans ce sens-là. Mais à la guitare, pour le coup, sur cette chanson-là, j'aime beaucoup ce que j'ai créé. Je trouve que c'est quelque chose qui m'est très propre. C'est vraiment ma signature. Et j'ai vraiment eu plaisir à enregistrer ce morceau-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des rares que j'ai enregistré au métronome.
Et c'était très sérieux, alors.
moi, j'aime bien... je pense que tous les musiciens avec qui j'ai joué, ils savent que... Enfin, si, bien sûr, j'ai la notion du rythme, mais c'est vrai que j'aime bien... c'est parce que je me considère plus comme chanteuse, donc j'aime bien avoir vraiment la liberté. C'est pour ça que j'ai un peu abandonné la guitare sur mes dernières tournées, parce que j'aime bien m'exprimer avec mon corps et ma voix. Donc, je ne suis pas très rigoureuse, rythmiquement parlant. Voilà. Il y a certaines chansons où j'ai... parce que je voulais vraiment construire quelque chose à la guitare.
Mais alors, ce titre en allemand,
ah
d'où vient-il?
Donc ça...
C'est le « Chercher l'intrus ».
Chercher la... C'est vrai que au moment de la décision finale, je me suis dit il faut absolument que je mette un Rammstein dans la sélection. Donc moi, Rammstein, c'est un de mes groupes préférés. Et des fois, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est pas si bizarre que ça. Moi, je trouve que mes débuts métal.
Ah oui, c'est vrai.
Je pense que dans tout ce que je fais, il y a une âme métal là-dedans, il y a une sensibilité métal.
Parce que tu voulais garder une trace de
oui,
ce.
Oui, les métalleux, en fait, c'est des gens qui sont très sensibles. Et Rammstein, c'est un groupe, je trouve, ils ont une façon d'écrire, une écriture de chansons qui est très forte. Moi, j'adore les mélodies. Je pense être une bonne mélodiste et je trouve que Rammstein... Alors, c'est difficile de les reprendre parce que...
Mais tu parles allemand ou c'est phonétique?
Non. Ah
oui,
non, non.
Tu as
c'est
fait
phonétique, ouais. Et j'aime bien me marrer des fois. Je prétends que je parle allemand et je commence à dire quelque chose, quelques vers des paroles qui sont très glauques. Im Lichtkleid kam sie auf mich zu. Et c'est drôle.
Mais t'as bien l'accent.
Ben, en Tunisie, on est bon quand même pour les langues parce qu'on est tellement exposé.
C'est vrai qu'en France, c'est pas notre point fort. Hein.
Je suis très passionnée de langue et d'accent.
Ah oui.
Oui. Oui, oui, moi je suis passionnée, j'adore écouter les différences dans toutes les langues que j'ai constatées. Enfin, j'adore étudier et puis j'aime bien. Pour moi, c'est comme du théâtre en fait, de reprendre une langue avec le bon accent.
Mais tu parles combien de langues ?
5.
Qu'est-ce que tu parles
Donc français, arabe, anglais, espagnol et italien.
Bien. Et donc tu as chanté dans ces autres langues ou pas ?
Oui, mais j'ai chanté dans beaucoup de langues. J'ai chanté en serbe, en hébreu, en portugais, en quoi d'autre ? En russe.
Et tu chantais dans ces langues parce que pour faire plaisir à un public dans un pays où tu allais comment ça se...
Non, mais moi je pense que j'ai toujours été très éclectique. Donc à mes débuts, j'écoutais beaucoup de surtout en arrivant à Paris. Mm-hmm. Donc j'écoute beaucoup de musiques différentes. J'aime beaucoup des musiques du monde entier. Et quand je trouve une chanson que j'aime, par exemple Ederlezi, la chanson Zigane qui est parue dans le film de Emir Kusturica. Mm-hmm. C'est une chanson dont je suis tombée amoureuse et donc je voulais la chanter. Donc mes débuts, en fait, je faisais des concerts où je sautais de Cranberries à John Baez à Pink Floyd.
Alors, tu nous as parlé de tes concerts en ligne. Je trouve que tu es bien modeste, en fait, parce que tu nous parles de tes concerts postés sur Facebook et tout, mais tu as quand même fait aussi un concert pour Arte TV, un concert pour le...
Royal Albert Hall, et un concert pour Amnesty, c'est vrai.
Voilà, tu as chanté pour le Liban, je crois, récemment, oui. Aussi, à l'Institut du Monde Arabe. Oui. Voilà, ça, c'est encore un autre contexte. Et au mois de juillet, tu as réuni un groupe de 53 musiciens avec des artistes, chanteurs et acteurs du monde entier. D'ailleurs, j'ai vu passer un post d'Elias Benjoma qui vient des Comores, dont j'ai utilisé une musique pour les vidéos que j'ai faites à Mayotte. Et je le vois poster un truc, je suis super contente de faire partie
formidable.
De la vidéo des mails. Et je me suis dit, mais comment ?
Alors, bon, à ce moment-là...
Il a une voix magnifique.
Oui, voilà. oui, j'en parlerai dans une seconde. Oui. Mais donc l'idée est venue parce que donc il y a eu beaucoup de musiciens et d'ailleurs il faut qu'on rende un grand hommage à tous les musiciens du monde pendant cette phase qui passe par des moments tellement difficiles et qui ont justement pendant le confinement il y a eu toutes ces vidéos où des gens se mettent ensemble, chacun chez soi.
Oui, c'était impressionnant.
Et donc, il y a quelqu'un qui m'a approché pour faire une version de Kelm Tiora. Et là, je me suis dit, en fait, s'il y a une chanson qui va ramener de l'espoir aux gens, qui va pouvoir réunir beaucoup de gens d'univers différents, ça doit être Kelm Tiora.
Alors, dis-nous quand même quelques mots de ce que c'est cette chanson pour
donc,
ceux et celles
Kelm
qui nous écoutent aux quatre coins de la planète qui ne te connaissent pas forcément encore.
Kelm Tiora, ça veut dire « Ma parole est libre »,« My word is free ». Donc, c'est une chanson dont les paroles ont été écrites par Amin El-Rozi, qui m'avait remis un petit bout de papier en 2006. Moi, je suis partie à Paris en 2007 et pendant longtemps, j'essayais de mettre une musique sur ces paroles. mais j'avais une musique sur laquelle j'essayais de mettre d'autres paroles, et un jour j'ai essayé les deux, et comme par magie, ça a fonctionné, et c'est devenu la chanson Kemptiora, que j'ai chantée pour la première fois à la place de la Bastille, tout inconnu, et j'ai commencé à parler des libertés, de la répression, etc. Donc c'est une chanson qui rend hommage, et d'ailleurs,
de la répression,
une chanson visionnaire. Ou... policière et la répression des gouvernements, notamment donc dans le, en Tunisie.
Voilà.
Et c'est une chanson visionnaire parce qu'en fait, elle raconte ce qui se passera à la Révolution plusieurs années plus tard. Donc, elle parle de cette rose dont on a enterré l'odeur et qui est sortie avec son voile en feu pour appeler les hommes libres. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand Bouazizi s'est immolé. Et suite à ça, toute la Tunisie s'est embrasée avec la volonté des gens pour abattre le régime.
En 2011.
En 2011, voilà. Donc c'est une chanson très importante. Et puis ce qui a été très magique là-dedans, c'est que moi, j'ai commencé à la chanter alors à quelques concerts, mais elle a fait... vite fait son chemin secrètement sur les réseaux sociaux, puis elle a été bannie aux aubes de la Révolution. De toute façon, c'est une chanson que j'ai jamais vraiment pu chanter nulle part en Tunisie, sauf à quelques concerts underground. Et la première fois justement que je l'avais chantée dans un concert underground en Tunisie en 2009, j'ai été surprise que tous les gens se sont mis debout, et les jeunes et il la connaissait tous par cœur. Donc c'est une chanson qui a fait vraiment beaucoup de chemin jusqu'au jour où je l'ai chantée dans la rue, où cette vidéo elle est devenue virale, voilà, avec mon manteau rouge. Puis après je l'ai chantée au prix Nobel de la paix à Oslo en 2015. Donc voilà, c'est une chanson très magique qui rentrait dans l'histoire de la Tunisie, du printemps arabe. Et voilà. Et pendant le confinement, je me suis dit, on a besoin d'espoir. On a besoin d'un grand message d'espoir, une grande bouffée d'air pour vraiment continuer et aimer, rester unis et connectés. Et j'ai commencé à contacter des artistes, des musiciens, et on a réussi donc à réunir. Je crois même que j'ai mal fait le compte, je crois qu'on est 55. et au début, en fait, je me suis dit, je vais faire un projet tunisien, comme j'étais en Tunisie,
oui,
que j'étais... très excitée d'être en Tunisie, d'être aussi en contact permanent avec les gens en ligne, ce qui ne m'était pas arrivé, parce que je ne suis jamais restée autant de temps depuis que je suis partie. Et petit à petit, en fait, je me suis dit non, je vais en faire un projet arabe. Le monde arabe a besoin d'être uni. Et c'est là où je me suis dit, mais le monde arabe tel qu'on le connaît, ce n'est pas juste parce qu'il manque toujours Djibouti, il manque toujours les Comores. Qu'est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont officiellement dans le monde arabe, donc la Mauritanie, le Soudan, et j'en oublie évidemment, parce qu'on connaît toujours l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Liban, tout ça, mais il y a beaucoup de pays qui sont, d'ailleurs en parlant aux artistes, ils étaient très contents de chanter dans leur dialecte, et de participer à ce projet arabe. Mais après, j'ai encore plus agrandi le projet. En fait, ça a pris, toute l'aventure a pris 2 mois. Moi, l'idée, je voulais la sortir en avril pendant le confinement. Et puis finalement, il y a eu tellement... c'était très, très, très émouvant, en fait. Chaque artiste auquel je présentais le projet disait oui tout de suite. Et donc, on a fini avec des gens d'ici, Flavia Coelho, Ayo, Sheikh Tidiane Seck, qui est un artiste d'une humilité extraordinaire, qui m'avait envoyé 20 prises différentes. Et je lui avais donné, je pense que j'ai donné un peu une carte blanche à tout le monde. Je leur ai dit, si vous voulez chanter en arabe, voici la phonétique. Mm-hmm. Si vous voulez chanter dans votre dialecte, ce serait vraiment avec plaisir. Et Elias, justement, m'a fait l'honneur de chanter dans son dialecte, d'écrire quelque chose. Et moi, souvent, j'ai eu les larmes aux yeux à chaque fois que je recevais... donc on a fini avec des artistes et musiciens de 22 nationalités différentes, donc du monde arabe, d'Allemagne, d'Afrique, Mali, voilà, c'est Brésil, donc il y a Flavia qui chante justement, oui, en brésilien, Et j'ai réussi aussi à attirer des superstars, des acteurs qui n'ont jamais chanté, qui m'ont fait confiance, comme Hind Sabri, une grande star donc, dans le monde arabe, une actrice, Dora Zarour, Dafla Abidine. J'étais vraiment très, très, très fière de cette expérience et du casting, juste parce que cette chanson, elle a touché les gens. C'est vraiment au-delà de moi, au-delà de ma personne. C'est vraiment la musique, ça réunit les gens d'une manière extraordinaire.
Oui. Pour terminer, Emel, donc c'est compliqué pour beaucoup d'artistes en ce moment, hein, avec scène ou pas scène, festival, pas festival, des projets qui s'annulent, des tournées qui s'annulent. Est-ce que tu as une idée un petit peu de l'avenir, ou est-ce que tout est aussi comme tout le monde au jour le jour en ce moment?
C'est vrai que c'est pas évident du tout. Bon, moi, j'essaye vraiment de me raccrocher à la création, donc je suis déjà en train de... j'ai commencé à écrire un nouvel album. Et cette fois-ci, j'ai décidé que ce serait un album exclusivement et entièrement produit, exécuté par des femmes. Donc voilà, c'est un projet qui me prend beaucoup d'énergie, parce qu'au final, les productrices femmes et les arrangeuses femmes, elles ne sont pas si faciles que ça à trouver, malheureusement. Et donc, je me suis dit que... il faut que j'aille à la recherche, parce que souvent les gens travaillent avec les mêmes producteurs, donc il y a un cercle vicieux, oui, où finalement ça laisse pas du tout de la place à de nouvelles figures féminines. Mais pour ce qui est des concerts, c'est un peu frustrant, oui, parce qu'on n'a pas du tout de visibilité. Alors, il y a peut-être des gens qui ont déjà des choses qui se sont mises en place.
Mais oui, ça fait
des bouchons, apparemment, pour les saisons.
Oui, c'est ça. Puis il y a des dates qui s'annulent, qui sont remplacées, qui sont échangées. C'est selon les lieux, selon la capacité des salles, puisqu'il y a ces problèmes du nombre de personnes.
C'est vraiment le bordel. Je pense que moi, je reprendrai un peu de tournée en mai. Mmh. Et d'ici là, je suis en train, cet album que j'avais pas forcément prévu de sortir, mais qui sort, qu'on va essayer de défendre.
Oui.
Et ça me permet aussi de reprendre un format. Là, je commence à tourner avec un format moi et cordes, et je rejoue de la guitare électrique. Donc je pars un peu dans plusieurs directions à la fois, mais c'est intéressant, et je pense qu'on a besoin justement d'être un peu...
d'ouvrir, oui.
Voilà.
De s'ouvrir aussi, quoi,
à
des nouvelles choses.
Parce que malheureusement, là, d'ailleurs, il y a une petite campagne sur Facebook, c'est que quand il y a des décisions politiques qui sont prises, la musique est toujours reléguée au dernier plan. Et là, j'ai vu quelqu'un qui a dit, imaginez notre confinement si on n'avait pas de musique, de films, d'art.
Oui. Merci beaucoup, Emel.
Merci. Merci à toi.
Merci pour ce très, très beau double album. Donc, je vais mettre le lien vers ton site, et pour que les gens puissent aller l'écouter, puissent aller l'acheter, et vers les vidéos dont on a parlé, voilà, qui sont très importantes aussi à regarder, à écouter, à partager. Bonne continuation à toi.
Merci.
Je ne pensais pas, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'en te disant au revoir et en te disant j'espère qu'on se reverra pour un prochain album, je ne pensais pas qu'on parlerait de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'il s'est passé tellement de choses incroyables depuis un an. Donc je parle avec précaution, mais j'espère que nous nous reverrons dans un an pour parler de ton nouvel album, donc sur lequel tu commences à travailler. Et j'espère que cette fois-ci, on aura vraiment plein de belles choses qui se seront passées pour tout le monde sur la planète.
Oui.
Qu'on pourra parler du mieux en cours. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonne
merci.
Continuation. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast, pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.